En capidance, du rythme de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidance, le mercredi jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Bien, Cube Girls chez les adolescents cause des RMM. Pour une raison ou une autre, certains adolescents disparaissent de la maison sans crier gare. Une situation qui inquiète évidemment les parents, surtout quand il s'agit d'une fille. La disparition peut durer quelques heures ou plusieurs semaines. Alors que peuvent être les causes à la base d'une fugue et comment y remédier? Voilà, c'est la question que nous abordons dans quelques instants avec notre invité. Vous êtes intéressé, composez le 081-893-6394 pour vous faire enregistrer. Nous allons tout de suite vous rappeler pour intervenir. Isidore Bamanaï, éducateur à la vie, est un musulman dans la province du Kassai occidental, pardon, oriental. Première question, Isidore, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par fugue.
Oui, merci beaucoup, Jédi. Merci pour l'invitation. Je crois que si vous l'avez déjà défini dans votre introduction, c'est la fuite du milieu familial par les adolescents, que ce soit un garçon ou une fille. Mais s'il faut aller en profondeur, c'est même la fuite de l'autorité des parents. Même si on reste dans la famille, on ne veut pas rester en présence des adultes. On s'enferme dans sa maison, c'est l'isolement, quand ils se rencontrent, ce sont parfois des disputes. Ce qui fait que les jeunes essayent de rejeter l'autorité des parents. Les parents, ça ne les arrange pas. Et ce qui peut même provoquer ce que vous avez dit tout à l'heure, et que l'enfant quitte la maison, il préfère aller vivre chez son oncle ou chez son grand frère, ou carrément dans la rue, s'il n'a pas un autre endroit où il peut aller. C'est cela qu'on peut appeler fugue.
Généralement, quelles sont les causes à la base de cela? Il y a des conflits à la maison, à la mésentente entre l'enfant et ses parents?
La première cause principale, c'est que à l'âge de l'adolescence, le développement de l'intelligence chez l'enfant atteint son niveau le plus élevé. Celui qui était enfant, qui devient adolescent, est capable de se faire des idées abstraites. Il est capable d'avoir une conception pour sa vie, pour sa vie future. Il peut avoir de nouvelles manières de vivre. Et souvent, cela ne rencontre pas l'assentiment des éducateurs, en premier lieu les parents. Et si les parents n'arrivent pas à comprendre ce jeune homme, c'est alors qu'il y a des disputes, et ces disputes peuvent entraîner facilement la fuite de l'enfant. Donc, aussi de son côté, même en présentant ses nouvelles idées, les jeunes ont toujours tendance à croire qu'il est incompris par les adultes. Et là où il n'est pas compris, il se sent mieux ailleurs. S'il n'a pas bien exprimé ses idées, si on ne lui laisse pas exprimer ses idées, il va vouloir les exprimer ailleurs, et ailleurs c'est en dehors de la famille, peut-être avec les amis ou avec les autres membres de la famille qui ont une oreille pour écouter ses nouvelles idées. Donc c'est principalement cette période où les jeunes cherchent à affirmer sa personnalité, cherchent à donner un sens à sa vie, et si cela n'est pas accompagné de manière utile par les parents, ça peut vraiment entraîner la fugue.
Oui, voilà, la fugue chez les adolescents cause des remèdes. Voilà, on retient que c'est lorsqu'il un enfant atteint l'âge de l'adolescence, il y a beaucoup de transformations en lui, il peut entrer facilement en conflit avec les éducateurs, particulièrement ses parents, et lorsque cela n'est pas bien géré, il peut claquer la porte, aller ailleurs. Alors Modeste, nous avons en ligne Modeste Mwamba de Kananga, bonjour.
Bonjour Jody Kachamwa, bonjour aux invités, aux auditeurs plutôt, ainsi qu'à notre invité Isidore Bamana de Mbujimayi.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour la parole que vous m'octroyez. Je suis très sûr certain de ce que Isidore Bamana a dit. On se rend compte qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train de se méconduire dans le sens que beaucoup de choses qui sont inventées par la technologie aujourd'hui sont en train de faire méconduire les adolescents, au point où certains sont en train de quitter les toits familiales sans qu'il y ait même un problème valable comme ça.
Est-ce que vous avez des exemples, un exemple par
j'ai un exemple d'un oncle maternel qui arrivait à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai pu estimer comme ça. Au moment où il était en troisième, il s'est rendu compte que les amis avec qui il marchait avaient des téléphones portables, par exemple. Et puis, ils ont commencé à poursuivre les filles. Moi-même, j'encadrais les jeunes filles ici à Cannes, les jeunes garçons, les jeunes filles ici à Cannes dans un club de jeunes. Alors, quand je pouvais l'interpeller pour qu'il puisse aussi participer aux activités des jeunes, afin qu'il soit conscient de se réaliser positivement et même négativement dans sa phase d'adolescence, il n'a pas pu comprendre mes conseils. Alors, il a suivi les mauvaises compagnies de ses amis. Et puis, quand il pouvait poser le problème du téléphone, les parents lui ont dit, en tout cas, nous n'avons pas assez de moyens, tu peux supporter que nous puissions te les chercher vraiment paisiblement. Il n'a pas pu comprendre les parents. Alors, il s'est volatilisé de la famille, il est parti comme cela. Jusqu'à présent, nous parlons, ses amis sont déjà en sixième des humanités, ils ont même présenté l'examen d'État. Nous ne savons pas là où ils se trouvent. C'est alors que je voudrais un peu poser la question à Isidore Bamana.
Oui.
Pendant l'adolescence, on se rend compte que les jeunes sont en train de se méconduire. Ça, c'est d'une façon très pointue que tous les auditeurs vont convenir avec moi, ainsi que Isidore Bamana, que les jeunes sont en train de se méconduire. Vous êtes sans ignorer que la technologie a fait des avancées significatives.
Merci,
aujourd'hui, les téléphones portables.
Merci bien.
Je pense que les téléphones, c'est un élément très important qui risque de déranger la population, la jeunesse que nous sommes pour le moment ici en RDC.
Voilà.
Je pense qu'Isidore Bamana a fait nous dire, en tout cas, quelques lignes, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire. Parce que les parents sont très lassés. Au moment où nous parlons,
merci.
Ils sont en train de mettre au monde, mais ils ne savent pas comment maîtriser vraiment l'adolescence chez leurs enfants.
Merci
beaucoup,
M. Jolie. On a tiens un jeune homme de 14 ans à quitter le toit familial parce que les parents n'étaient pas en mesure de lui acheter un téléphone portable. Nous avons Dekaba Mpanga, il nous appelle Dekamina. Bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste. Bonjour, soit l'invité.
Quelle est votre question?
Moi, je voudrais un peu poser une question parce que il y a des fois que vous retrouvez des enfants, un enfant où toutes les conditions sont réunies à la maison, il est bien gâté. Il est bien surveillé, mais vous le voyez sur la maison.
Mmh.
Alors, moi, j'aimerais, qu'est-ce qui est à la base de cet enfant sur tous les plans, sur le plan intellectuel, moral, spirituel, c'est ça même la question.
Merci. Bétaba. Léon Xavier nous appelle de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à tous.
Nous parlons aujourd'hui de la fugue chez les adolescents. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, moi j'ai une composition. C'est juste quand la fugue est déjà là, elle est déjà constatée.
Mmh.
Un jour, je viens du boulot au centre-ville, à 19h à 20h, je rencontre une fille qui me dit que ses parents biologiques vivent dans une autre ville et qu'elle est à Lubumbashi pour des raisons d'études, mais elle est accusée à tort ou à raison par les membres de sa famille qui l'avaient reçu. Elle me dit qu'elle n'a pas où aller. Alors ma question que je vais poser à l'invité, c'est celle-ci. Dans ce cas où la fille est déjà là, moi, la personne envers qui cette fille-là ou cette personne-là vient, qu'est-ce que je peux lui donner comme réponse? Quelle peut être ma réaction?
Alors sa famille, Léon Xavier, sa famille d'accueil, l'accusé de quoi exactement?
Non, là, je dis, là, on est encore sur la rue, elle ne m'a pas encore dit quelque chose. Et là, je pose la question, est-ce que je peux l'amener à la maison sur moi? Oui, mais si je l'amener, quelles peuvent être les conséquences? Et une fois mais la fille à la maison, ou le garçon à la maison, elle expliquait qu'elle est accusée, par exemple, ou bien qu'elle n'est plus supportée par sa famille.
Mmh.
Alors, quelle est la démarche qu'ils peuvent entreprendre pour résoudre le problème de la personne qui vient chercher le secours envers moi, qui est croisée sur la route.
Merci Léon Xavier. Merci Léon Xavier. Isidore Bamanaï.
Oui, merci Modeste Kanana. Bonjour. Vous posez ici le problème d'un jeune homme qui est parti à cause du téléphone et que tous les parents sont conscients que les jeunes gens se méconduisent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La question de ce qu'il faut faire est une question délicate, parce qu'il faut analyser cas par cas. Ce jeune homme a demandé le téléphone depuis combien de temps? Les parents ont dit qu'ils n'ont pas de moyens. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté que les parents n'ont pas de moyens qu'ils peuvent continuer à vivre sans téléphone? Est-ce qu'il y avait autour de lui d'autres choses qui ont fait que, à cause du téléphone, on a déclenché la fugue? Donc, je crois qu'il faut analyser cas par cas avant de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Ce jeune homme est parti, ça fait longtemps, ses collègues ont déjà fait les examens d'état, mais pourquoi les parents sont restés indifférents au fait que le garçon a quitté la famille? Moi, je crois que même si la fugue est déjà consommée, comme le dit notre ami Léon de Lumbashi, que je salue aussi en passant, même si la fugue est déjà consommée, les parents, ils constatent cet état de choses. Ils ne doivent pas dormir tranquillement dans leur lit, dormir sur leur oreiller, et dire, bon, il est parti, c'est un bon débarras, peut-être quand il sera fatigué, il va rentrer comme l'enfant prodigue. C'est vrai que l'enfant peut partir, il peut revenir, mais entre-temps, on ne sait pas ce qui peut lui arriver dans la rue, qu'est-ce qui peut lui arriver là où il prétend aller vivre. Je crois que les parents ont l'obligation de s'informer, de chercher, peut-être pas de personnes interposées, aller demander à l'enfant de revenir à la maison, quand il revient à la maison, installer le contact comme il faut pour essayer de décanter la situation. Je crois, mon ami Modeste, vous êtes encadreur de jeunes. Si les parents se plaignent pour la méconduite des jeunes, mais posez aussi leur la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les jeunes ne se méconduisent pas? Parce qu'il ne faut pas seulement se plaindre, il ne faut pas attendre que la situation se gâte pour constater et pour se plaindre. Il faut plutôt travailler en amont pour conduire cet enfant vers une volonté de bien faire, vers la capacité de se gouverner après le jugement, après qu'il ait affermi sa volonté de mieux faire dans la vie. En ce moment-là, je crois que les plaintes vont diminuer. Et pour que Kabat, les conditions sont réunies à la maison, il a dit, l'enfant est gâté, il a tout.
Dans les gens qui sont dans la maison,
c'est qu'il met là-dedans.
Mm-hmm.
L'enfant peut bien manger, il peut bien dormir, il est bien vêtu. Mais est-ce qu'il a compris? Quand il essaye de mettre de nouvelles idées, est-ce qu'il a compris? Parce que pour que l'enfant se sente mieux dans la famille, c'est pas seulement les conditions matérielles, mais c'est aussi qu'on lui fasse un peu et un tout petit peu confiance, qu'on l'écoute quand il présente une idée, même si c'est une idée abstraite, même si les parents peuvent se dire c'est une mauvaise idée, mais il faut pas barrer la route à son expression. Il faut lui donner le temps de s'exprimer totalement, lui poser des petites questions pour bien comprendre la portée de sa pensée, et peut-être lui proposer autre chose en rechange. Je crois que de cette manière-là, l'enfant peut être gâté, il a à manger, mais s'il se sent toujours incompris par ses propres parents, dès qu'il veut dire quelque chose, on lui dit que toi tu n'as rien à dire. Il n'a qu'à prendre ce que nous te donnons comme un costume prêt à porter et te conduire. Nous, nous sommes adultes, nous avons beaucoup d'expérience. Ça ne suffit pas pour un adolescent.
Voilà, on retient.
Construire son monde à lui.
Voilà, on retient que l'enfant a besoin d'être compris, sinon ça, il peut être tenté à fuguer. Avant de répondre aux autres auditeurs, nous allons accueillir Ismaël Montoli de Lumbashi et Rachel Njonjo de Sirou. Ismaël, bonjour.
Bonjour, je dis que ça, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, ma première préoccupation était de savoir jusqu'à quand l'enfant peut se garer de la maison. C'est quand il y a l'écureuillement, soit entre le parent et l'enfant, pour les sujets disconvenants. Peut-être que les remariages, c'est ça un problème. Je peux vous donner un témoignage.
Oui.
Une fille de 27 années qui était engrossée, mais c'était par la cause épileptique qu'elle était tombée. Maintenant, c'était devenu très grave. Quand la fille est venue au centre de santé où on travaillait, elle est parvenue à dire même son mari, et pourtant c'était son beau-père. Disons ça. Vous voyez, vous avez d'abord compris qu'entre le remariage, s'il n'y a pas une bonne attente à la maison, c'est-à-dire qu'ensuite, après l'enfant de quitter la maison. La deuxième des choses, c'était il y a un système qu'on appelle l'itikomaïde. C'est-à-dire, soit on achète la machine à un enfant, et l'enfant ne parvient pas à utiliser cette machine-là de la bonne manière. Et il trouve le programme très difficile qui ne se concorde pas avec une bonne éducation. Et si les parents ne tirent pas attention à cet enfant, il y a aussi 100% de s'égarer aussi du foyer. Et je demandais aussi, est-ce que l'éducation entre l'enfant et le parent, est-ce que c'est un tirant, les parents et les enfants, est-ce que ça peut être un sujet de tiraillement? Si ce n'est pas ainsi, ça montre que les parents manquent les responsabilités pour diriger l'enfant. C'est là aussi pas un sujet aussi de s'échapper à la maison.
Merci Ismaël Mompoy. Rachel, vous êtes à Issiro, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite proposition concernant les déchets. C'est une expérience que moi, j'ai vécue. Je vais me la faire interpeller aux parents. C'est ce que moi, on m'a fait, on sait comment dit moi. C'est pourquoi je vais me maîtriser. Je me la dis ça.
Rachel, tu as maintenant 18 oui. ans. Tu peux-tu nous raconter pourquoi tu avais fui la maison?
Pardon?
Oui, peux-tu nous raconter pourquoi tu étais partie de la maison familiale?
Moi, je ne suis pas partie de la maison, je n'ai jamais fait ça. C'est pourquoi je voulais dire. Et pourquoi ça ne m'a pas arrivé? C'est parce que j'ai été informée. Chez nous, à la maison, c'est tout le monde qui m'est formé. Mes parents, mes frères, tout ça, mes soeurs, me disaient, ils me disaient que non, il y a un âge là, qu'il faut savoir. Donc, il faut savoir résister, surmonter tout ça, ne te laisser pas porter par ça. Et j'ai essayé, c'est ce qui m'est arrivé. Parfois, je me sentais là que ça m'arrivait de fournir la maison, ce que vous venez de dire, mais je maîtrisais et j'ai réussi de le faire. Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est aux parents, de former les enfants, qu'ils sont encore plus.
Alors, quel était le problème qui vous a poussé à vouloir partir de la maison?
Bon, il y avait des fois, je faisais des bêtises, là-bas, je ne sais pas comment grandir, si on me grandit, mais je vais fuir, donc je vais me suicider, tout ça, mais j'ai tant des histoires à la tête. Mais il y avait des fois, je surmontais tout ça. Quand j'ai resté calme et tout ça, j'ai arrivé à surmonter ça et ça passait, ça a vraiment passé. Mais là, j'ai dit tout à l'heure, je voulais demander à mes parents que ça va encore revenir. Je ne sais pas si c'est mieux.
Merci. Albert Mwananga, vous êtes à Kananga, bonjour.
Notre invité histoire d'Amalaï et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, en particulier, c'est Israël Sidapas.
Bien, rapidement, votre question, Albert.
Oui, moi, je voudrais tout simplement donner ma petite première question, et c'est de savoir, oui, dans la mesure où les parents n'ont pas l'habitude d'engager les dialogues entre les enfants adolescents, qu'est-ce qui peut arriver comme conséquence, et quels conseils faut-il leur donner dans ce sens-là?
Bien, merci. Je vous remercie.
Oui, merci, Jody. Je disais à Kaba de Kamina qu'on ne doit pas gâter l'enfant à la maison, surtout quand l'enfant devient adolescent, qui se met à émettre ses propres idées, parce qu'il a lu, parce qu'il a écouté les autres, parce qu'il a regardé la télévision. Je crois que les parents ont tout intérêt à ne pas lui barrer la route, à l'écouter un tout petit peu, qui termine ce qu'il a à dire, pour chercher à proposer autre chose, mais de manière subtil et de manière délicate pour l'amener à comprendre, pour l'amener à rencontrer son propre jugement afin d'influencer sa volonté à vouloir mieux faire. Donc, à ce moment-là, on peut peut-être réussir d'une manière ou d'une autre à éviter la fuite. Léon dit, il y a quelqu'un qui rencontre sur la route et sur la nuit, qui est chassé de la maison, il lui demande de l'amener chez lui. Il se pose la question de savoir s'il doit le faire. C'est possible. C'est possible qu'on puisse le faire, mais il faut prendre des précautions, mon ami Léon. Parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qu'on amène à la maison. Si c'est la nuit, vous risquez de le retrouver le matin parti avec autant de choses de la maison. Un voisin dans mon quartier a perdu sa moto comme ça. Quelqu'un qu'il connaissait très bien, qui est venu chez lui vers 21h, il demandait une place pour dormir, il l'a accepté, il est resté au salon. Mais entre-temps, il avait commis l'imprudence de laisser le contact de sa moto dans le casque et sur la table. L'homme a observé tout ça, et vers les petites heures là, il a ouvert la porte, il a carrément amené sa moto, et depuis là, il n'est pas...
La moto est partie.
Donc, je crois qu'il faut prendre des précautions. D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'on peut aller vérifier à la maison? Vous avez vu le film Fugito ou quelque chose comme ça. C'est une fille aussi qui a fui la maison, qui est allée se réfugier dans un restaurant. Les parents ont cherché, l'ont trouvé là. Le maître du restaurant a dit non, vous ne devez pas la ramener à la maison. Je vais la faire travailler ici pour qu'elle apprenne que gagner sa vie, ce n'est pas une mince affaire. Donc il faut prendre des précautions.
Bien.
Il pose le problème du remariage et que si là-dedans il n'y a pas compréhension entre parents et enfants, ça peut être une cause de la fuite. C'est tout à fait correct.
Il nous parle même d'ici de 20 ans qui a été engrossé. Et lorsqu'on lui a posé la question, il dit que non, c'est le nouveau mari de sa maman qui l'a fait ça.
Ouais. C'est vraiment malheureux en ce moment-là. Je crois que même la maman qui est avec sa fille à la maison va se retrouver en face de son banda. Et la vie devient alors insupportable.
Mm-hmm.
Mais l'éducation n'est jamais un sujet de tiraillement entre parents et enfants. L'éducation devra être un processus où les deux camps cherchent à s'approcher et les deux camps cherchent à se comprendre mutuellement pour un but commun. Parce que les éducateurs doivent se souvenir que le but ultime, le but essentiel d'une discipline parentale que l'on veut imposer aux enfants consiste à rendre l'enfant capable de se gérer lui-même après avoir exercé son propre jugement, après avoir affirmé sa volonté de mieux faire. À ce moment-là, je crois qu'on a agi positivement. Le pédagogue parle aussi de la discipline librement consentie. Quand la discipline est librement consentie, elle forme mieux la personne, mais aussi forme mieux la personnalité de l'enfant, de telle manière qu'il puisse évoluer, même en dehors des parents, comme quelqu'un qui peut s'assumer.
Voilà, Rachel de Pinciro, elle nous dit qu'elle a aujourd'hui 18 ans et elle était aussi tentée à plusieurs reprises de faire la fugue, surtout quand on grondait sur elle, si elle avait commis une bêtise. Alors, elle se pose la question de savoir si cela peut revenir, si on grondait, on tournait sur elle, est-ce que la tentation peut revenir un jour de fuguer?
Bon, je pense que au fur et à mesure qu'on avance en âge, et comme il a dit, il y a l'encadrement des parents, de ses grands frères, de ses grandes sœurs, elle a toutes les chances de bien analyser la situation, de se calmer, comme elle dit qu'elle s'exerce à se calmer. Je crois que pour elle, peut-être la fugue ne va plus revenir. Mais j'en profite pour dire, frapper, gronder, surtout chez un adolescent, c'est plutôt une injure, c'est une atteinte portée au développement de sa personnalité. Ça ne sert à rien de gronder. Même si on veut rendre compte à l'adolescent qu'il a mal agi, ce n'est pas en grondant. Je crois que si, dans ce contact, la sympathie est de maître, est de mise, je crois que dans la sympathie-là, on peut montrer de manière agréable à quelqu'un qu'il a mal agi, et que même on peut lui demander de promettre que désormais, il ne pourra pas se comporter de cette manière-là. Et ainsi donc, le climat dans la famille, entre adultes et enfants, le contact là doit rester permanent, et alors, on évite de gronder, surtout quand il s'agit d'un adolescent, on évite de gronder, plutôt on fait appel à sa conscience, on fait appel à sa fierté de personne humaine.
Mmh.
En ce moment-là, il est possible qu'on puisse rester ensemble à la maison sans trop de problèmes. Albert dit s'il y a absence de dialogue. Évidemment, s'il y a absence de dialogue, quel est le contact que les parents ont avec leurs enfants? Le contact permanent passe par le dialogue.
Mmh.
Le dialogue doit être teinté de respect. De respect, non seulement que les enfants respectent les parents, mais il faut aussi que les parents respectent les enfants. Que ces enfants-là sont des personnes humaines. Quand on leur rapporte une idée contraire à celle qu'ils ont avancée, on doit tenir compte de leur sensibilité. On doit tenir compte de leur réaction. De telle manière qu'on les invite en fournir des efforts en vue de réussir leur vie.
Bien. Nous avons en ligne Roselyne Mboula depuis Siro. Roselyne, bonjour.
Bonjour, Jadé.
Bon, vous écoutez.
Bonjour, Ciel, invité.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai écouté l'invité parler. Si il ne faut pas gronder la faim de l'enfant, il ne faut pas le frapper, il ne faut pas l'injurer. C'est un jeu. Alors, dans ce cas-là, si l'enfant est adolescent ou adolescente, tu ne veux pas écouter quand tu lui donnes beaucoup de conseils concernant la vie future. Et qu'il n'écoute pas, il continue seulement à faire des bêtises qui ne sont pas convenables. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire?
Isidore Bamanaï, merci.
Oui, merci Rosine. L'enfant continue à faire des bêtises alors qu'on lui a donné des conseils. Et moi, je me pose des questions. Dans quelles circonstances on lui a donné des conseils? Dans quelle ambiance on lui a donné des conseils? Et nous, éducateurs à la vie, nous sommes habitués à dire que donner des conseils, parfois, maintenant, là, ça ne donne pas beaucoup de résultats. Il faut plutôt passer par le processus de conscientisation, essayer de fixer la conscience profonde de l'enfant, essayer de lui faire prendre conscience que sur cette voie-là, il va gâcher sa vie. Parce qu'il s'agit effectivement de sa vie. Il faut que l'enfant prenne cette conscience-là.
Et
on m'apporte ici comme encadrement.
Oui.
C'est pour réussir ma vie. Si on lui fait prendre cette conscience-là, il sera gagné. Que de lui donner des conseils de ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. À ce moment-là, dès qu'on dit ne faites pas, dans notre nature faible, on est tenté
de faire.
Vous vous rappelez le commandement de Dieu, ne mangez pas du fruit de cet arbre, sinon vous allez mourir. Cette interdiction a provoqué la transgression de la loi, et l'homme a chuté, et nous avons ce que nous avons aujourd'hui.
Ils vont dormir malade. C'est le cas, le cas, par exemple, d'une jeune fille à qui ses parents lui disaient qu'il ne faut pas sortir avec les garçons, mais à un moment donné, elle s'est retrouvée avec un petit ami, et puis elle est tombée enceinte. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle était grosse, elle s'est dit, bon, je vais encore rester ici, bon, elle a préféré partir sans dire quoi que ce soit pour aller rester avec son ami jusqu'à l'accouchement. Alors, donc, qu'est-ce que les parents peuvent faire dès qu'ils constatent la disparition de l'enfant?
Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je dis, dès que les parents constatent la disparition de l'enfant, pour quelque raison que ce soit, je crois que les parents ne doivent pas dormir tranquillement dans leur maison, qu'ils cherchent, qu'ils s'informent, qu'ils découvrent si l'enfant est parti vivre avec son petit ami qui l'a rendu grosse, bien, qu'il passe par la voie de l'administration ou de la justice pour réparer la faute commise. C'est comme je le disais tout à l'heure à Rosine, donner des instructions de ne faites pas. Je crois que il serait plus facile de dire à l'enfant, à la fille, écoute ma fille, tu as grandi, quand tu sors sur la route là, les garçons vont te solliciter et essaye de résister. Parce que si jamais tu te donnes, voilà les conséquences. Et quand je crois qu'on analyse ces conséquences avec la jeune fille, elle peut prendre conscience. Et quand les garçons me sollicitent, si je me donne, je vais avoir ce genre de conséquences. Mais si au bout du rouleau, elle s'est donnée par sa propre faute, elle va assumer la responsabilité de l'acte commis. Et je crois que les parents, tout ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas gronder, ce n'est pas lui dire, tu vois, on te le disait, voilà où on en est aujourd'hui. Et là, c'est charger de plus en plus la conscience de l'enfant, ça fait aussi provoquer la fugue. C'est plutôt dire, nous compatissons à ce qui t'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que tu penses que l'on puisse faire, maintenant que tu es enceinte? Qu'est-ce que tu penses? Dis-nous ce que nous, parents, nous devons faire. Je crois que de cette manière-là, la fille va peut-être fondre en larmes, elle va reconnaître sa faute, et puis par après, on va se dire, bon, tu vas dormir, après on va en parler. On va continuer à parler, à chercher, à trouver une solution. Et peut-être qu'on peut trouver une solution, une bonne solution.
Mmh.
Parfois, les parents disent, ah, si on fait ça, les autres filles vont dire, ah, mais quand il y a eu une grossesse, on n'a rien fait contre elle, donc nous aussi. Je crois que ce n'est pas une réaction automatique. Hein? Les parents ont toujours le souci d'encadrer leurs enfants. Même quand il a commis une erreur, il faut soutenir ses efforts. Il faut être disposé à l'aider, enfin qu'il ne tombe plus dans la même erreur.
Voilà.
Donc, dans ce contact permanent, les parents devront adopter cette attitude.
Un auditeur nous a écrit, dit ceci, mon père nous a raconté que son père, donc le grand-père, l'avait mis dehors à l'âge de 16 ans avec de l'argent pour qu'il aille se débrouiller. Peut-on parler d'une fugue dans ce cas-là? Nous sommes dans les années 60.
Dans ce cas-là, on ne parle pas de la fugue. Parce que la cause du départ de la maison, ce sont les parents. Ce n'est pas le garçon qui prend la décision de partir.
Mmh.
Il n'y a fugue que quand l'adolescent, pour l'une ou l'autre chose, prend la décision de quitter la famille. Et alors qu'on peut parler de fugue. Mais quand les parents remettent l'argent à leur garçon qui a 16 ans, et on lui demande d'aller se débrouiller ailleurs et de s'installer, je crois qu'il n'y a pas fugue. Ce sont les parents qui ont conduit l'enfant à quitter la maison.
Et une fugue peut durer combien de temps, Isidore Lomanaï?
Ah, ça, c'est imprévisible. Ça peut être 30 minutes, ça peut être une heure, ça peut être 10 jours, ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Ça dépend du mobile de l'acte posé. Et ça dépend aussi de l'interpellation de la conscience de l'enfant qui a quitté la famille, qui se retrouve dans la rue ou chez les amis. Ça dépend aussi des interventions des amis qu'on a rencontrés qui peuvent dire, écoute, non, tu n'as pas raison de quitter la famille, il faut rentrer, ou même on va t'accompagner pour parler avec les parents. Donc,
est-ce que l'enfant,
n'est pas
déterminé.
Ça dépend des circonstances.
Mais généralement, est-ce que c'est l'enfant lui-même qui aura le courage de rentrer à la maison ou c'est d'autres personnes qui doivent l'aider à rentrer? Et quelle sera l'attitude des parents? Il y a certains qui craignent si les parents, par exemple, son papa est trop méchant, ils craignent qu'en rentrant, qu'on puisse les tabasser.
Bon, ça peut arriver que l'enfant, de son propre initiative, peut se dire, ah, je me rends malheureux pour rien, il faut que je rentre. Elle peut rentrer par chez le voisin ou par derrière la maison, ou même au coin de la maison, là, il fait un signe à ses frères et sœurs qui sont restés là. Est-ce que je peux venir? Est-ce que maman est là? Et qu'on demande pardon pour moi? L'enfant lui-même peut prendre l'initiative. Mais ça peut être aussi d'autres personnes, les amis des parents, ou les membres de la famille, ou les amis du garçon, ils disent non, c'est pas normal, faut que tu rentres à la maison, on va t'accompagner. Oui, c'est vrai que l'attitude des parents peut être un motif de la durée de la fugue. Si l'enfant se dit, ah, j'ai déjà commis un forfait, j'ai même quitté la maison, il rentrait, ça va chauffer, je crois qu'il va traîner, il va traîner. Moi, je crois que les parents doivent prendre l'exemple de celui qui a reçu son enfant, qui avait même demandé l'argent pour quitter la maison dans la Bible. Il dit, papa, donne-moi mes biens. Déjà, il m'est débrouillé dans la vie, il est parti, il a rencontré des difficultés dans la vie, il dit, tiens, je dois rentrer chez mon père. Mon père l'a accueilli avec joie, il a même dit, mon fils ici était perdu, voilà qu'il est revenu, il était mort, voilà qu'il est revenu à la vie. Je crois que les parents doivent être contents, je sais qu'ils sont énervés. Ouais, ils sont énervés, ils peuvent montrer une mauvaise attitude, ça peut arriver, mais ils reprennent leur conscience, leur enfant, même si il a mal agi, quand il est revenu à la maison, on va lui montrer une bonne attitude, on va être disposé à le comprendre. C'est pas tout de suite comme ça, lui dire, ah, tu étais parti, maintenant tu es revenu. Il a vu que c'était pas facile, hein. Je crois que c'est méchant, ça ne répare rien. Et tu es revenu, ah, bonjour papa, bonjour, ah, ça va, tu es revenu, ok. Prends ta place dans la maison, ta place est toujours là, nous t'accueillons avec joie. Et puis par après, ce n'est pas tout de suite qu'on doit commencer à lui faire des remarques. On les laisse vivre un peu, et puis que l'eau passe sous les ponts. Et par après, on va parler avec lui pour lui dire, écoute, ce qui était arrivé là, nous n'étions pas contents. Mais quand tu es parti, nous ne sommes pas restés ici tranquilles. Nous nous sommes fait de la peine pour vous. Et maintenant que tu es rentré, voilà, nous pensons que, et en ce moment-là, on travaille sur sa conscience.
Bien.
Isidore
Bamaray, éducateur à la vie, intervenant de Kumbujimaï dans la province du Kassai oriental. Nous vous disons merci et bonne journée.
Bonne journée à vous aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs qui sont intervenus, spécialement à Rachel et Rosine, et aussi à tous les auditeurs qui ont suivi l'émission.
Dans mon accord, il va venir. Bienvenue.